Il est 17h à Nice et 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. À la une, l'Iran défie les États-Unis avant des pourparlers prévus dimanche et annonce vouloir construire un nouveau site d'enrichissement d'uranium. C'est un moment de vérité dans les négociations sur le nucléaire entre Washington et Téhéran. Le crash d'un Boeing d'Air India peu après son décollage a fait plus de 240 morts en Inde. Les corps sont en train d'être extraits du site. Une personne a survécu, annoncent les autorités. Le long courrier devait rallier l'aéroport de Gatwick à Londres. Enfin, prospection pétrolière, sonar militaire, transport maritime, tous ces bruits humains endommagent la faune marine. Question évoquée à Nice à la conférence de l'ONU sur l'océan. Quelques jours avant de nouvelles discussions avec les États-Unis, l'Iran dit vouloir construire un nouveau site d'enrichissement d'uranium, annonce après un nouvel avertissement de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui condamne Téhéran pour ne pas avoir respecté ses obligations nucléaires. Pour le chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique, David Rigoulet-Rose, cette hausse de la tension s'explique par le fait que les négociations entre l'Iran et les États-Unis entrent dans le vif du sujet.
On arrive au moment de vérité. On est rentré dans le dur de la négociation, c'est-à-dire les éléments qui font obstacle à la finalisation d'un accord potentiel. En l'occurrence, l'enrichissement, la filière de l'enrichissement, puisque d'un côté, il y a l'Iran qui dit qu'il est hors de question de ne plus enrichir in situ, c'est-à-dire en Iran, et de l'autre, il y a la position américaine qui maintenant semble plus claire, puisqu'elle n'était pas aussi claire au début, sur le nécessaire démantèlement de la filière de l'enrichissement, ce qui est jugé inacceptable pour Téhéran, et ça explique la montée des tensions qui est manifeste, et qui n'est pas uniquement rhétorique, puisque les Américains ont annoncé qui retirait un certain nombre de personnels des bases et des ambassades qui font face à l'Iran et que l'Iran, de son côté, a menacé de frapper directement les bases américaines dans le Golfe. Donc, on voit bien qu'on arrive à un moment critique. C'est potentiellement ce que les Américains appellent le tipping point, c'est-à-dire le point de bascule.
Le chercheur David Rigoulet-Rose était l'invité international d'Alban Le Prince à la mi-journée. L'Union européenne appelle Téhéran à la retenue afin d'éviter toute escalade avec Washington. Paris dénonce la poursuite assumée de l'escalade nucléaire de l'Iran. De son côté, Israël appelle à une réponse décisive contre l'Iran accusé de menacer la sécurité internationale. À Gaza, les frappes meurtrières israéliennes se poursuivent. 22 Palestiniens sont décédés aujourd'hui et l'armée appelle les habitants de plusieurs secteurs de la ville de Gaza à évacuer. L'ensemble de l'enclave est désormais privée d'Internet. La dernière ligne de fibre optique encore en service a été touchée par des bombardements. Côté égyptien, des militants affluent pour une marche mondiale vers Gaza en solidarité avec le peuple palestinien. Ce matin, plus de 200 d'entre eux ont été interpellés au Caire, à leur hôtel ou à l'aéroport, même si le Caire ne s'est pas encore prononcé sur l'autorisation ou l'interdiction de cette marche. Le but des militants est de rallier en bus la ville d'Arish, dans le nord du Sinaï, puis Rafah à pied du côté égyptien de la frontière avec Gaza. Au Liban, le procureur général a ordonné l'arrestation d'un ancien ministre de l'économie à l'issue d'une enquête de plusieurs semaines. Amin Salam est accusé de falsification, détournement de fonds publics et chantage auprès de compagnies d'assurance. Paul Ralifé.
Amin Salam a occupé le poste de ministre de l'économie entre 2021 et 2025 dans le gouvernement de Najib Miati. C'est le premier responsable politique de cette importance à être arrêté depuis le début en 2019 de la crise économique qui secoue le Liban, un pays miné par une corruption endémique. Une information judiciaire avait été ouverte contre Amin Salam il y a 2 mois à la demande de la Commission parlementaire de l'économie. Les députés lui reprochent d'avoir conclu des contrats avec des entreprises étrangères pour des montants exorbitants en comparaison avec les services rendus. Il est également accusé d'avoir utilisé à des fins personnelles des fonds de la caisse de cotisation des sociétés d'assurance placés sous la tutelle de son ministère. 3 autres personnes, dont le frère de l'ex-ministre Karim Salam, sont poursuivies dans le cadre de cette affaire qui porte sur des centaines de milliers de dollars. La mise en accusation puis l'arrestation d'Amin Salam est la première action prise au Liban depuis l'entrée en fonction en février dernier du gouvernement de Nawaf Salam, qui s'est engagé à adopter des réformes structurelles et à lutter contre la corruption. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Inde, les sauveteurs ont déjà récupéré plus de 200 corps sur le site du crash du Boeing d'Air India. Le long courrier s'est écrasé ce matin dans cette ville du nord-ouest du pays avec 242 personnes à bord, 230 passagers essentiellement indiens et britanniques et 12 membres d'équipage. Le Boeing 787 venait de décoller et faisait route vers l'aéroport londonien de Gatwick. Et on vient de l'apprendre, il y a un survivant, annoncent les autorités. Des enquêteurs britanniques et américains vont se rendre en Inde pour participer à l'enquête. Donald Trump se félicite que le calme soit revenu à Los Angeles. Pas sûr que cette nouvelle déclaration du président américain fasse l'unanimité alors que le déploiement de militaires décidés à Washington est vivement contesté. Les manifestations se sont étendues dans le pays contre sa politique migratoire, à New York, Saint-Louis ou Denver notamment. Nouveau rassemblement pacifique hier soir aussi à Los Angeles, avant le couvre-feu. Une mesure prise, dit la maire de la ville, pour arrêter les fauteurs de troubles qui profitent de l'escalade chaotique du président. Washington réexamine bien le projet AUKUS, ce partenariat stratégique conclu en 2021 avec l'Australie et le Royaume-Uni. Le projet vise à équiper la marine australienne d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire. Canberra confirme l'information, mais assure rester très confiant sur l'avenir d'AUKUS. Les explications de Yelena Tomic.
L'Australie se dotera-t-elle comme prévu d'ici 2030 de 5 sous-marins américains nucléaires de classe Virginia et d'environ 8 autres d'une nouvelle classe à l'horizon 2040? Le doute est permis. Le Pentagone a entamé un réexamen du pacte AUKUS et pourrait bien l'abandonner. D'abord parce que l'industrie américaine n'arrive pas à produire suffisamment de sous-marins. Et dans un contexte géopolitique tendu, notamment entre la Chine et Taïwan, eh bien Washington veut concentrer les efforts sur la production de ses propres sous-marins nucléaires. Un éventuel retrait américain d'AUKUS serait vécu comme un véritable coup de poignard pour Canberra, qui s'était retiré il y a 4 ans du contrat du siècle, un accord conclu avec la France et qui portait sur la construction en Australie de 12 sous-marins conventionnels pour un montant 4 fois inférieur à l'AUKUS, soit 56 milliards d'euros. En Australie, deux anciens premiers ministres des deux bords politiques, libéral et travailliste, estiment que Canberra doit procéder à sa propre révision du pacte ou encore développer sa propre politique de défense.
À Nice, la conférence sur l'océan se poursuit et l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement lancent une grande évaluation des différentes pollutions qui affectent les mers, y compris la pollution sonore. Une trentaine de pays ont déjà lancé une coalition pour des océans plus silencieux. Ils s'engagent à mettre en place des mesures pour réduire le bruit causé par les humains sur et sous la mer, une pollution qui a de graves conséquences sur la vie marine. Les explications de Jeanne Richard.
Sous l'océan, la lumière ne pénètre pas très loin, mais les sons, eux, se propagent bien mieux que dans l'air. Les animaux marins se basent donc beaucoup sur leur ouïe pour communiquer, comme cette baleine à bosse au petit matin. Cette otarie qui appelle son petit, jusqu'au tout petit poisson clown. Et puis les hommes sont arrivés, prospection pétrolière, sonar militaire, construction d'éoliennes offshore et bien sûr, transport maritime.
Le nombre d'activités humaines au-dessus et en dessous de la surface de la mer a considérablement augmenté et donc créé une cacophonie de sons qui vient noyer tous les sons naturels de l'océan et donc perturber tous les animaux.
Aurore Morin, du Fonds international pour la conservation des animaux, détaille les conséquences pour la faune marine, trop souvent sous-estimée.
Ça les empêche de se diriger, de communiquer convenablement, donc de se reproduire, de chasser, de se nourrir, etc. Et dans le pire des cas, ça peut venir leur causer des blessures à leurs organes auditifs, notamment des hémorragies internes, et causer la mort de l'animal, le pire des cas.
Elle appelle à la rénovation des bateaux, mais aussi à une baisse de leur vitesse. Une réduction de 10% permettrait de diminuer leur impact sonore de 40%. Jeanne Richard, Nice, RFI.
Merveilleux bruit de la faune marine à préserver. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite sur le Pont des Arts, avec vous Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Karine Bellicha, 17h10 à Paris, on va parler photographie sur le Pont des Arts. À tout de suite.